L'enseignement que nous allons voir aujourd'hui concerne le Christ, la divinité du Christ. Nous aurons un enseignement, pas la semaine prochaine, mais par la suite, sur le Christ incarné, vrai Dieu, vrai homme. Mais nous allons aborder aujourd'hui le fait que le Seigneur, Jésus, soit le Seigneur, soit Dieu, qu'il est né de Dieu. C'est ce que nous disons dans le Credo. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Si nous écoutons la parole du Christ en saint Matthieu, verset 16, le Christ qui dit à ses apôtres, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous pour vous qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Si nous posions cette question, si Jésus nous posait cette question, que disent vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues sur moi, pour eux, qui suis-je? On aurait sans doute des réponses très variées. Les gens ne se référeraient peut-être pas à l'Écriture, un autre Élie, Jean-Baptiste, un prophète, non. Ils diraient peut-être un sage, un homme éclairé, un homme humaniste, plein de valeurs. Certains diraient le Fils de Dieu, d'autres l'envoyé de Dieu, mais ce n'est qu'un homme, un prophète, diraient certains l'islam. Donc voilà, les idées sur Dieu, sur Jésus-Christ, sont très variées dans notre société. Et donc, il est bon de savoir qui il est vraiment, qui il est vraiment. Souvent, on a une reconstruction. Notre société se fabrique une image de Jésus-Christ. En son temps, il y a quelques années, on avait créé un Jésus-Christ hippie. Voilà, c'est-à-dire, les plus aînés s'en souviennent, cheveux longs, barbe, voilà, une espèce de hippie sympathique. Une sorte de Jésus-Christ aussi de Che Guevara. Il y a eu cette construction-là. Il y a eu Jésus-Christ amoureux de Marie-Madeleine ces derniers temps, dans des écrits polémiques. Ou alors Jésus-Christ sur lequel on revendique ses valeurs humaines. Mais bon, il n'y a pas trop de différence avec nous à la rigueur. C'est ça les valeurs de Jésus-Christ. On parle souvent des valeurs de l'Évangile, tolérance, amour, liberté. C'est souvent ce qu'on entend. On ne remet pas toujours en cause, mais parfois oui, l'historicité de Jésus. Il faut savoir quand même qu'il a vraiment existé, qu'on a vraiment des preuves historiques, des sources chrétiennes et des sources non chrétiennes qui attestent de son existence. Et que pour certains personnages historiques, on en a bien moins, et par contre, eux, jamais on ne remet en cause leur historicité. Donc il est bon de dire que Jésus-Christ a existé, mais ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, peut être interprété de différentes manières, mais souvent, c'est une reconstruction, selon les époques, qui nous est proposé. Or, c'est pas ce qui est dit dans l'Écriture. Et c'est intéressant de lire l'Écriture pour dire qui est Jésus, qu'est-ce que dit Jésus de lui-même, qui il est. Parce que souvent, on se fait des images. Alors, quand l'Église dit dans son credo qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, qu'il est engendré, non pas créé, qu'il est de même nature que le Père et que par lui tout a été fait, nous allons voir que c'est ce que dit Jésus lui-même de lui. Voilà. C'est ce que dit Jésus lui-même de lui. Avant de commencer encore, je voudrais vous parler du centre de gravité. J'étais cette semaine avec une personne, je me suis arrêté près de chez elle, et on s'est mis à discuter de Dieu. Et la personne cherchait tous azimuts le sens de sa vie, à travers plein de choses, chercher Dieu. Et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ? Parce qu'on peut rencontrer Jésus-Christ. Est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ ? La personne, j'ai compris qu'elle ne l'avait pas rencontré, mais qu'elle croyait en Dieu, qu'elle cherchait dans tous azimuts. J'ai pris cette image en lui disant, voyez, on peut chercher comme on cherche dans la galaxie une étoile qui brille, et qu'une fois qu'on en a une, on va en chercher une qui est encore plus belle, voire même on va essayer d'amasser plusieurs étoiles pour avoir plusieurs données sur le sens de sa vie, quelque chose qui nous éclaire. Mais tout ça est un peu chaotique et va dans tous les sens. Et puis c'est sans fin, c'est grand la galaxie. Tandis que quand on a trouvé un centre de gravité, quelque chose qui soit central, dans lequel tout tourne autour, à ce moment-là, on a trouvé le sens, la réponse à tout. On peut ne pas tout connaître, parce que les connaissances sont infinies, mais on a un centre. Et je lui disais, Jésus-Christ est le centre de gravité de l'univers. Voilà, c'est lui qui a tout créé, c'est la finalité, c'est le créateur, on peut le rencontrer, c'est le centre de gravité. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ, vous manque le centre de gravité. Vous cherchez plein d'étoiles, plein de choses, c'est très bien, mais vous n'aurez pas le centre. Et quand le Seigneur pose cette question à Pierre et aux apôtres, que disent-ils de moi ? Nous avons plein, en mémoire, plein de réponses que les gens nous font sur Jésus-Christ, qui sont des réponses de chercheurs, mais qui n'ont pas encore découvert la personne de Jésus-Christ, qui à la rigueur connaissent son message, mais le connaissent à moitié, parce que souvent c'est une reconstruction de ce qu'on dit de lui, mais qui n'a pas dit, ou une réduction à un niveau très humain, hippie, voilà. Voilà, mais ce n'est pas ça Jésus-Christ. Or, Jésus va poser cette question à chacun d'entre nous comme il la pose, il l'a peut-être déjà posée, il peut la poser maintenant ou demain, comme il l'a posée aux apôtres. Et vous, que dites-vous, pour vous qui suis-je ? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va reprendre en disant, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas par la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. » La connaissance qui nous est donnée de Jésus-Christ n'est pas qu'une connaissance culturelle, intellectuelle, d'érudition ou de reconstruction. Non, c'est une connaissance qui vient de Dieu, qui est révélée, qui n'est pas de la chair et du sang, qui est révélée. En cela, il faut recevoir l'Esprit Saint pour connaître Jésus-Christ. Celui qui fait la rencontre de Jésus-Christ, ben, il reçoit l'Esprit Saint, et nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Et donc, ce que nous pouvons demander aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ ou qui voulons connaître mieux Jésus-Christ, qui le cherchons, c'est de demander au Saint-Esprit d'éclairer notre intelligence et notre cœur pour comprendre qu'il est le centre de gravité. Et que quand une personne cherche Jésus, avec les mauvaises ou les bonnes images qu'elle a de Jésus, ou Dieu tout court, qu'elle puisse, avec le Saint-Esprit, être éclairée dans son intelligence et dans son cœur. Alors, dans l'Écriture, il nous est donné ce qu'est Jésus-Christ, qui il est vraiment. Et si nous l'accueillons avec foi, nous pouvons rencontrer Jésus-Christ tel qu'il est vraiment. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, il nous est dit qui est Jésus-Christ. L'apôtre Paul, parlant aux Philippiens, leur dit « Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. » Et voilà ce qu'il dit de Jésus-Christ. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père ». Cet hymne que l'Église reprend et chante tous les samedis soirs en entrant dans le dimanche, à la prière des Vêpres, et Philippiens 2, chapitre 2, est une hymne christologique qui nous dit qui est le Christ. C'est toute la théologie de Jésus-Christ qui est donnée là par Paul. Tout d'abord, nous pouvons retenir, et nous allons voir, que Paul dit « lui qui était dans la condition de Dieu ». C'est-à-dire, il est Dieu. Il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Tiens, il est de condition divine égale à Dieu, Jésus-Christ. Ce n'est pas tout à fait la reconstruction hippie qu'on s'en faisait. Et puis, il nous est dit le chemin que Jésus-Christ fait. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Paul nous parle de l'incarnation, du fait que Jésus-Christ, égal à Dieu, s'est fait homme et reconnu homme à son comportement. Nous avons là l'incarnation que nous parlerons au prochain enseignement. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Nous avons là la rédemption, la passion et la mort du Christ. Jésus-Christ, égal de Dieu, s'incarne, s'abaisse et meurt. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. L'élévation du Christ, elle commence à la croix. Elle se manifeste dans la résurrection, dans l'ascension. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, la foi en Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux sur terre et dans les abîmes, tout être vivant tombe à genoux. La genoux, c'est l'adoration, cette adoration devant Jésus-Christ. Et il semblerait, à l'air de dire Paul, que c'est pour tout le monde, y compris pour les êtres spirituels purs, les anges et les démons, qui surpasse tous les noms afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père ». Et nous allons voir que cette expression « Jésus-Christ est le Seigneur » contient en fait la divinité de Jésus. Alors, qui est Jésus-Christ vraiment? Paul nous le montre, il est de condition divine, il s'est incarné. Il s'est abaissé, il est mort sur une croix, il a été élevé par le Père, ressuscité, monté au ciel. Il a domination sur le ciel, la terre et l'abîme, et que tout être vivant est appelé à proclamer son nom comme le Seigneur et à s'agenouiller devant lui pour le reconnaître comme le Dieu. Donc là, on a l'hymne vraiment de Paul qui nous dit qui est Jésus-Christ, c'est dans l'Écriture. Donc on ne peut pas dire que Jésus est simplement un homme, ou quelqu'un qui a des valeurs. Jésus-Christ, nous allons voir, avant son incarnation aujourd'hui, approfondir cela. Dans le credo, il nous est dit, « Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père. » Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu né de Dieu. Il est Dieu engendré par Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que cela? Ça veut dire tout simplement, et en même temps c'est un mystère, parce que ce n'est pas tout simple, que Jésus-Christ est le Fils éternel. Qu'avant de s'appeler Jésus, il est le Fils éternel. Il a toujours existé en tant que Fils, en tant que Fils. Par Jésus-Christ, nous connaissons l'intérieur de la Trinité. Avant Jésus-Christ, les hommes ont accès au vrai Dieu par la révélation de l'Ancien Testament. Ils peuvent connaître ce vrai Dieu qui parle et qui parle sans cesse. Mais ils restent en dehors de son intimité profonde parce qu'ils n'ont pas accès au noyau trinitaire, au cœur de Dieu profondément. Celui qui vient de Dieu a fait connaître Dieu. Et dans Saint Jean, ce verset qui est très riche, que nous citons souvent, Jean chapitre 1, verset 18, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » Jésus-Christ est le Fils unique, nous verrons ce que ça veut dire « Fils unique », qui vient de Dieu, qui est Dieu, qui sort de Dieu pour se faire connaître, pour révéler aux hommes qui est vraiment Dieu, en plénitude. Donc, généralement, les hommes peuvent connaître Dieu par la création, par leur raisonnement un petit peu, et rentrer en contact avec lui par la parole de Dieu, par la prière et la foi en Dieu unique. Et cette révélation s'est faite de manière manifeste à Israël. Mais le cœur de Dieu, son intimité, le fait qu'il soit Trinité, nous est révélé par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la personne dans la Trinité, la deuxième personne éternelle. C'est le Fils éternel. Nous verrons, c'est en cela que nous disons le Fils unique. Et ce Fils éternel n'est pas une créature. Si nous sommes des créatures, Jésus-Christ n'est pas une créature. En cela, il est supérieur à Socrate, Gandhi, Bouddha. Il n'est pas un simple homme, il a toujours existé. Dans le credo, nous disons « engendré, non pas créé ». Pour nous, nous pourrions dire « créé, tout court ». Jésus n'est pas créé, il a toujours existé. Et la première personne de la Trinité, le Père, a engendré et continue à engendrer depuis toute éternité et pour toute éternité son Fils. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement paternel du Père vers le Fils et un mouvement filial du Fils qui se reçoit du Père. C'est mystérieux, mais Jésus est Fils éternel. Il est sans cesse engendré, mais non pas créé, parce qu'il est Dieu. Il n'a pas de commencement. Voilà qui est Jésus-Christ avant même de s'incarner, le Fils éternel. Avant de s'appeler Jésus, il est le Fils éternel. Et ce Fils éternel est créateur, au même titre que le Père et l'Esprit-Saint. On lui donne un autre nom à ce Fils éternel. Dans le prologue de saint Jean, on l'appelle le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair, c'est son incarnation, Jean 1, chapitre 14. Mais les premiers versets du prologue nous disent « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Et nous voyons là la complexité. Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est incompréhensible. Soit il est Dieu, soit il est à côté de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. En fait, cela est compréhensible simplement dans le mystère de la Trinité. L'unique Dieu en trois personnes, le Verbe, le Fils éternel, est Dieu. Et il est en même temps à côté du Père. Donc nous avons là, dès le début, ce qu'est le mystère de Jésus-Christ. Il est Dieu éternel, à côté du Père. C'est dans l'unique Dieu, il est le Fils éternel, qu'on peut appeler aussi le Verbe, c'est-à-dire la parole créatrice, celui qui a tout créé. C'est pour ça que Paul peut dire aussi dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux abîmes. De fait, il a tout créé. Et saint Jean dira, et le Verbe était auprès de Dieu, il était au commencement auprès de lui, par lui tout s'est fait. Tout est créé par Jésus-Christ. Parce qu'il est le Verbe, la sagesse éternelle, il est la parole vivante de Dieu, et que c'est la parole vivante de Dieu qui a créé l'univers. Donc Jésus-Christ est vraiment éternel, il est Dieu, il est créateur comme le Père, il est sagesse éternelle, il est le Verbe. Il est Fils éternel, il est Verbe éternel. Et c'est important d'avoir conscience de cela, parce que sinon nous risquons de réduire Jésus à une dimension trop humaniste, d'en faire notre copain, d'en faire notre pote, mais nous oublions d'abord qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Et c'est ça l'émerveillement du christianisme, c'est que c'est Dieu qui vient, Dieu. Voilà. Et donc quand il va parler, c'est Dieu qui parle, qui connaît les choses, qui a tout créé. Et il parle en tant que Fils, parce que toute son attitude, elle est filiale. Donc on voit qu'on est très loin des valeurs chrétiennes. Simplement, où Jésus-Christ, c'est un homme éclairé, un sage, qui prêche la tolérance, la liberté. Non, c'est Dieu créateur, qui a tout créé et qui parle. Et qu'on va voir qui centre tout sur lui, qui centre tout sur lui. Des historiens, au siècle dernier, reconnaissaient que si on lit l'Évangile, il se passe la chose suivante. Soit on dit que Jésus est un fou, parce qu'il s'est pris pour Dieu, soit un très grand charlatan, soit alors il est Dieu, parce qu'il le dit. Mais on ne peut pas dire simplement qu'il a dit qu'il est homme. C'est pas ce qu'il a dit. Soit il a menti, soit il s'est pris pour un fou, soit alors il affirme ce qu'il est. Mais on ne peut pas dire qu'il a dit qu'il est simplement un homme. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pour ça que la reconstruction actuelle de la conception de Jésus est fausse. Elle ne tient pas compte de ce que dit le texte. Et c'est important. Et il faut entendre ce que dit le texte pour voir que le texte dit que Jésus-Christ est Dieu et que lui-même le dit. Alors peut-être que lui s'est trompé ou qu'il est fou. Parce que personne n'a jamais dit ça de tout temps. Personne ne s'est jamais pris pour Dieu. Ou alors il est Dieu. Et il l'affirme parce qu'il est Dieu. Il est important aussi de voir que dans les textes sacrés des religions, à ma connaissance, mais je suis loin de connaître tout, à ma connaissance, il n'y a pas de texte où celui qui parle saute au centre. Celui qui parle saute au centre. Il est le centre de ce qu'il dit. En général, il y a un prophète qui dit quelque chose d'un autre. Là, non. Jésus-Christ dit « Moi, je, qui viens à moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. » Il y a une centralité de Jésus qui renvoie à sa personne. Soit cet homme a un orgueil démesuré, soit alors, il centre tout à lui parce qu'il a quelque chose à dire. Voyez, là encore, on est loin des idéaux qu'on partage. Jésus ne partage pas l'idéal. Il dit, qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il centre tout à lui-même. C'est ses paroles. Il y a beaucoup de moi-je. Il y a permanence de ça. On ne retrouve pas ça, l'équivalent, il me semble, dans le Bouddha, chez Mahomet, etc. Ce n'est pas du moi-je. Là, c'est Jésus dit autocentre. Soit c'est un fou, soit il ment. Soit il est Dieu. Et dans l'Écriture, il est dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Quel orgueil! Et pourtant, si c'est vrai, ça change tout. Cette connaissance nous est donnée par l'Esprit Saint. C'est une expérience de rencontrer Jésus-Christ. Mais nous devons reconnaître que le texte, la parole de Dieu, le Nouveau Testament et même toute l'Écriture, nous pousse à reconnaître cette centralité de Jésus-Christ dans son message. Il s'installe comme le début et la fin du message, comme la personne centrale. Ça, c'est unique, il me semble, dans les textes religieux. C'est unique. Ça fait de la personne de Jésus une personne qui veut parler avec une très grande autorité, une autorité maximale, qui n'a pas d'équivalent. Alors, nous allons voir maintenant les mots. Je disais dans le credo, « engendré, non pas créé, il est toujours existé. » Il est Dieu, né de Dieu, c'est la même chose, engendré, non pas créé. Mais nous allons préciser maintenant quelques mots qui me semblent importants. Quand l'Église dit Jésus, nous disons, c'est de l'hébreu, ça veut dire Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, Dieu sauve. Vous voyez, nous portons chacun des noms, mais généralement notre nom ne dit pas la fonction. Matthieu s'appelle Matthieu, sa fonction d'abord, son être, c'est être humain, garçon, et on pourrait dire en ce moment étudiant. Jésus-Christ, c'est un être humain, c'est Dieu fait homme, mais son nom dit l'action de Dieu, parce qu'il est Dieu sauve, il est l'action de Dieu en direct, c'est ce que dit Jésus, c'est ce que veut dire Jésus. Dieu est Dieu sauve, et l'Écriture nous dit en Marc 2,7, Dieu seul peut remettre les péchés. Eh bien, Dieu qui sauve peut remettre les péchés. Dans l'Écriture, on ne prononçait pas le nom de Dieu. Tous les Juifs ne prononçaient pas le nom de Dieu seulement une fois par an, par respect pour demander le pardon de leurs péchés. Mais généralement jamais, parce qu'on ne met pas la main sur Dieu, nous l'avions dit déjà. Parce que mettre la main sur quelque chose, le nommer, c'est comme si l'être humain prend la chose, en est maîtresse. Je peux prendre un livre, stylo, téléphone, mais Dieu, je ne peux pas en mettre la main parce qu'il est plus grand que moi. Prononcer le nom de Dieu était blasphème, c'est se considérer au-dessus du Créateur. Or, les chrétiens vont pouvoir dire Jésus, Dieu sauve, parce que la foi, c'est la foi en l'action de Dieu qui agit en ce moment. De croire qu'en dans la personne de Jésus, c'est Dieu qui est en train de sauver et d'agir. Voilà pourquoi nous disons Jésus. Et nous voyons que, comme nous verrons pour tous les attributs de Jésus, Christ et Fils unique de Dieu, Seigneur, la résurrection a une place capitale. La résurrection, nous dit l'Écriture, de Jésus glorifie le nom du Dieu Sauveur. Car désormais, c'est le nom de Jésus qui manifeste en plénitude la puissance suprême du nom au-dessus de tout nom. En effet, Jésus ressuscité montre qu'il a vaincu la mort, qu'on peut avoir foi en lui, foi au nom de Jésus, comme c'est dit dans les apôtres, parce qu'il a vaincu la mort. Et c'est ce que nous rappelait l'épître aux Philippiens, que nous avons cité, Philippiens 2, et la fin des versets, « Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. » Jésus, c'est le ressuscité. C'est Dieu sauve qui pardonne les péchés et qui pardonne les qui va détruire les conséquences du péché parce qu'il ressuscite, il vainc la mort, il a vaincu la mort. Donc la foi en Jésus, c'est la foi que Dieu sauve, qu'il vainc la mort, donc c'est une foi totale. Le nom de Jésus, l'Église a insisté sur cette tradition pour le placer au centre de ses prières. C'est la personne de Jésus, je vous dis, c'est l'action de Jésus qui sauve, c'est l'action de Dieu qui sauve en direct le nom de Jésus. Et donc dans l'Église, pendant la liturgie, nous prions au nom de Jésus. Chaque fois nous disons « Par Jésus le Christ, notre Seigneur ». C'est-à-dire que nous faisons toutes nos prières dans Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu sauve. La prière chrétienne est une prière qui passe par Jésus en permanence. Dans la tradition orientale, les popes, les moines orientaux et tous les chrétiens orientaux vénèrent le nom de Jésus. Ainsi, ils disent cette prière continuelle qui vient du cœur, qui est greffée sur la respiration ou sur le rythme du battement du cœur. « Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Jésus, fils du Dieu vivant. » C'est-à-dire, ils invoquent le nom de Jésus, le nom de celui qui sauve. De Dieu sauve, l'action qui sauve. Et bien nous-mêmes, dans notre tradition occidentale, avec le « Je vous salue Marie », nous avons la présence du nom de Jésus. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et Jésus, qui est comme l'épicentre de cette prière, le nom de Dieu qui sauve, que nous invoquons parce que c'est l'action de Dieu, parce que c'est lui qui l'a ressuscité, et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Voyez, cette centralité du nom de Jésus. Jésus-Christ. Christ, en hébreu Meshia, en grec Christos, Jésus-Christ, Jésus le Messie, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui est oint, O-I-N-T, c'est-à-dire qui a reçu l'onction. L'onction dans l'Ancien Testament a été donnée de manière particulière à des rois. Les prophètes ne voulaient pas qu'il y ait des rois en Israël parce qu'ils voulaient que seul Dieu soit leur roi. Mais à un moment donné, pour conduire le peuple, pour des besoins aussi administratifs, il a fallu des rois. Et donc le prophète Samuel va oindre, donner l'onction, faire un oint, O-I-N-T, de Saül, puis après il y aura David, et puis après il y aura Saul, et puis après il y aura Salomon, pardon. Donc ils vont recevoir de l'huile sainte sur eux qui va les consacrer par l'onction pour qu'ils conduisent le peuple. Ce sera les oints. Dans cette grande tradition, Israël a attendu un Messie, un oint, d'une manière particulière qui serait consacré par l'onction du Seigneur pour guider son peuple. Jésus-Christ est Jésus l'oint, celui qui a reçu l'onction. Il le dira en Saint Luc, chapitre 3 ou 4, si je me souviens, quand il rentre à la synagogue, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a donné l'onction », en citant le prophète Isaïe. Jésus est loin, il est celui sur qui repose l'Esprit Saint en plénitude, cette onction. Et il peut donner cette onction aux autres. C'est pour ça qu'un chrétien devient un petit Christ, un quelqu'un qui est loin. Et nous recevons cette onction au baptême, et elle est affermie à la confirmation. Voyez, Jésus-Christ, Jésus, loin. Dieu sauve Jésus, qui donne l'onction, qui donne le Saint-Esprit. L'Église nous enseigne qu'il fallait que le Messie, loin, par l'Esprit du Seigneur, soit à la fois roi, prêtre et prophète. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il a accompli. Il est à la fois le roi d'Israël, es-tu le roi des Juifs ? Il est à la fois le grand prêtre qui s'offre en sacrifice. Et il est à la fois aussi le prophète par excellence, parce qu'il est la parole vivante de Dieu qui parle. Et donc, quelqu'un qui est baptisé dans l'onction, dans le Christ, devient, comme nous le disons, prêtre, prophète et roi. Jésus-Christ. Jésus est le Christ. Et Pierre, nous l'avons vu dans Matthieu 16, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dira, « Cela a été révélé par l'Esprit Saint. » Jésus est le Messie, mais il n'a pas accepté tout de suite ce titre de Messie. Parce que ce titre de Messie avait pour ses contemporains une conception trop humaine, essentiellement politique, une sorte de libérateur à l'époque du joug des Romains. Et Jésus a voulu se détacher de cette vision politique pour entrer, donc on est vraiment loin de la conception du Jésus révolutionnaire, soit dit en passant, pour rentrer véritablement dans une dimension de foi plus profonde. Et Jésus acceptera cette conception du Messie quand elle est éclairée par Dieu dans une dimension de foi plus profonde, quand Pierre dira « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». À ce moment-là, oui, il l'acceptera, mais pas la vision réductrice de libérateur politique. L'Église nous dit que Jésus a accueilli la profession de foi de Pierre, qui le reconnaissait comme Messie, en annonçant la passion prochaine du Fils de l'homme. En effet, si nous voyons dans le texte de Matthieu 16 et les versets suivants, Jésus accueille cette révélation, mais à la suite, il parle de sa passion. C'est-à-dire, le Messie ne vient pas libérer comme on le croit. Il n'est pas là pour libérer politiquement. Il est là pour faire sortir l'homme de l'esclavage du péché et lui donner l'accès au Père. Et ça passera par la croix. Et nous nous souvenons de l'épître aux Philippiens, le Christ, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenu obéissant et obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Voilà le chemin du Christ, du Messie, de loin, qui veut libérer. Et cette prophétie, elle est dans l'Ancien Testament, de ce Messie souffrant, de ce serviteur souffrant. Vous retrouverez ça dans Isaïe 53, versets 10 à 12. Quand le Christ dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude », Matthieu 20, 28, il donnera sa rançon. Le Messie, qui était annoncé par les prophètes, en particulier par Isaïe, est un Messie souffrant qui va donner sa vie, qui va mourir pour libérer. Croire en Jésus-Christ, c'est recevoir l'onction, c'est croire que le Messie est mort pour nous. Voilà, est mort pour nous. Et c'est seulement après la résurrection, comme à nouveau pour Jésus, au nom de Jésus tout genou fléchisse, c'est après la résurrection, nous dit l'Écriture, que la royauté messianique pourra être proclamée par Pierre devant le peuple de Dieu. Jésus est vraiment le Messie, mais il annoncera cela fortement après la résurrection du Christ, quand il proclame sa foi devant les Juifs. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 26, verset 36, que dit Pierre ? Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, Dieu l'a fait Messie. Et dans cette parole-là, elle est chargée de l'expérience de la résurrection. Le Messie, c'est le ressuscité. Il est ressuscité. On peut le proclamer. C'est vraiment lui, le Messie. Voyez, toutes les paroles de Jésus vont prendre leur sens, tout ce qu'il est, ses définitions, dans la résurrection du Christ. Il est le Fils unique de Dieu. Alors on pourrait dire, mais nous aussi on est fils de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur une parole de Jésus, je crois, si je me souviens bien, en Saint Jean, au moment des récits de la résurrection, Marie-Madeleine qui voit Jésus, qui le confond d'abord avec le jardinier, et Jésus va lui dire « Marie », elle va vouloir le toucher, dire « Rabboni, maître chéri », et Jésus dira « Ne me touche pas, va dire à mes frères que je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père ». Toute la vie de Jésus, Jésus s'est identifié à nous durant toute sa vie. Il a pris notre condition divine, notre condition humaine. Mais toujours est-il, il y a un écart entre Jésus et nous. Quand il dit « vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père ». Et quand Jésus nous dit « apprends-nous à prier », les apôtres lui demandent « apprends-nous à prier », il dira « dites notre Père qui es aux cieux », etc. Mais lui, sa prière à lui, c'est Jean 17, « Père ». C'est d'une manière, il a une manière unique, Jésus, d'être avec le Père. Pourquoi ? Parce qu'il est le Fils éternel, et que le Fils éternel est Fils depuis toujours et pour toujours, et que nous, nous ne pouvons devenir Fils qu'en Jésus-Christ, par, j'allais dire, par adoption. Donc, Jésus, il y a bien une distance infinie entre lui et son Père, et entre nous et lui, et ça restera. Il est Seigneur, il est Dieu, et en cela, il est le Fils unique. Vous voyez, ce que nous disons dans le Fils unique, c'est qu'il est le Fils éternel, et qu'il est Fils d'une manière unique, sans équivalent. En Israël, on parlait des fils de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était un titre donné aux anges, mais aussi au peuple de l'élection, c'est-à-dire Israël, aux enfants d'Israël et même aux rois. Ça signifiait une forme de filiation adoptive. Oui, Dieu est avec nous, il est notre Père, nous sommes ses fils. Et on dira que le roi Messie attendu est le Fils de Dieu. Mais le sens que Jésus va donner est beaucoup plus fort. Et nous voyons qu'avec Jésus, les mots se chargent de sens de plus en plus. Oui, Pierre dira, tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Mais quand il dit ça, il dit la foi chrétienne. Il dit, tu es le Fils éternel, le Fils unique. Avant, nous ne sommes pas fils comme toi. Voilà. Souvenons-nous, le Fils unique qui était dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Jean 1, 18. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il est Fils d'une manière unique. Voilà, voilà ce que nous entendons par Fils unique. Et ces révélations, Dieu nous le fait, le Père nous le fait de manière particulière dans le baptême et dans la transfiguration. Dans le baptême, nous entendons dire du Père qui dit, la voix du Père qui nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et dans la transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc on voit qu'il est le Fils unique de manière particulière, qu'il faut écouter. Et de la même manière, au moment de la résurrection, après la résurrection, les apôtres, forts de cette expérience du ressuscité, vont proclamer le Fils unique, et c'est ce que nous avons encore, nous avons vu, c'est ce que vont dire encore Paul dans les Romains. Selon l'Esprit qui sanctifie par sa résurrection d'entre les morts, il l'a établi comme Fils de Dieu dans sa puissance. La résurrection du Christ révèle qu'il est Fils de Dieu dans sa puissance, révèle qu'il est le Fils unique, montre sa divinité de Fils éternel. Romains 1, 4. Et c'est ce que dit le prologue de Saint Jean en Jean 1, 14, qui est l'expérience de rencontrer le ressuscité qui est vraiment Jésus-Christ. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Voilà. Il y a une manière unique de Jésus d'être Fils, que nous ne pourrons être jamais, parce qu'il est le Fils éternel. Il l'a dit et il l'a manifesté en sa résurrection. Il est le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Arrêtons-nous maintenant sur « Je crois en Jésus-Christ, je crois en un seul Seigneur ». Voilà, le terme de Seigneur est important parce que le terme de Seigneur, on l'employait aussi dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit, on ne prononce pas le nom de Dieu, Yahweh, ou si on rajoute des voyelles, ça fait Yéhovah. Voilà, vous avez ce nom de Dieu qui n'existe qu'avec les consonnes, qu'on ne prononce pas par respect pour Dieu, pour ne pas mettre la main sur Dieu, par respect de sa sa qualité divine, sa déité, on ne met pas la main sur Dieu, vous lavez ce nom-là à l'oratoire de la Transfiguration tout en haut. D'accord. Et donc, les Hébreux utilisaient un autre nom pour parler de Dieu. Ils l'appelaient le Seigneur, Adonai. Adonai. Voilà. Et en grec, Adonai, c'est Kurios, Seigneur. Et dans notre liturgie aussi, nous utilisons le nom Seigneur. Quand dans l'impératif, nous demandons au Seigneur de prendre pitié de nous, nous disons Kyrie eleison. C'est Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Nous invoquons le Christ en sa qualité de Dieu, comme Adonai. Seigneur, prends pitié. Donc nous voyons que Jésus-Christ est Dieu, Fils éternel. Il est Dieu sauve, il est loin, qui va nous donner l'onction en passant par la mort et la résurrection, et qu'il est Seigneur. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, on se souvient de l'épître aux Philippiens qu'on a lu au départ, et que toute langue reconnaisse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur. Alors, ce titre-là, Jésus-Christ, lors d'une discussion en Matthieu 22, 41-42, va citer le psaume 110, qui est dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. » Et de manière voilée, Jésus-Christ va, le Seigneur Jésus-Christ va quelque part à sa manière dire cela aux Juifs de son époque. Il est Seigneur et il est assis à la droite du Seigneur. Ah ben, quand il y a deux Seigneurs alors, maintenant, il y a un unique Dieu, mais il y en a un qui est Père et l'autre, il est Fils, Seigneur Fils. Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Vous voyez ? Ça, c'est une indication et c'est beau parce que c'est déjà prophétisé dans le psaume avant que le Christ manifeste sa seigneurie. Très souvent, on voit pareil, de la même manière, je vous ai dit, le récit de la résurrection, l'expérience de la résurrection va charger les sens de tous les mots. De la même manière, dans le Nouveau Testament, nous voyons que les gens appellent Jésus Seigneur. Ça peut être un sens affectueux, de respect, de confiance. On dit Seigneur. On dit aussi, dans le moment de la résurrection, quand Jean et Pierre voient Jésus au loin, ils ne le reconnaissent pas, ils leur disent péché, et la pêche à nouveau va être miraculeuse, ils le reconnaissent au miracle, ils diront c'est le Seigneur. Ça veut dire, là c'est chargé d'affectivité, d'amitié, d'expérience vécue. C'est le Seigneur. Donc, respect, expérience affectueuse, mais plus profondément, ça va exprimer la divinité de Jésus aussi. En effet, en Jean chapitre 20, verset 28, Thomas dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu, quand il fait l'expérience de toucher le ressuscité. Donc il le reconnaît comme son Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et nous retrouvons à nouveau l'épître aux Philippiens qui nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre et aux abîmes, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. » Voilà, le Christ est Seigneur. C'est le mot souvent qu'on emploie dans le Nouveau Testament pour parler du Christ et du Christ ressuscité, le Seigneur. Voilà. Ça dit, c'est des éléments de sa divinité. Et nous avons enfin dans l'Apocalypse, l'Église a uni à l'Esprit Saint, l'épouse unie à l'Esprit Saint, en Apocalypse, chapitre 22, verset 20, l'Esprit et l'épouse disent « Maranatha, viens Seigneur, nous attendons le retour du Seigneur. » Et aujourd'hui, dimanche, le dies Domini, c'est le jour du Seigneur, le jour du Christ ressuscité, du Christ Dieu. Voilà. Donc je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Je voudrais terminer sur quelques petites précisions et rajouter un point de la divinité de Jésus qui me semble important. Quelques petites précisions. Quand dans le credo nous disons « de même nature que le Père », il faut préciser, parce que la traduction française pourrait être incorrecte si nous la poussions au maximum. En fait, elle pourrait même être hérétique. Vous pouvez prendre deux mots, deux livres, et dire qu'ils ont tous les deux la nature de livre. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique livre. Deux livres ont la même nature. Deux hommes ont la même nature humaine. On pourrait pousser ça et de dire que de même nature que le Père, il y a deux dieux. Un Dieu Fils et un Dieu Père. Tous les deux ont la nature divine. Si on poussait le credo dans ce sens-là. Or, c'est pas ça. Dans le texte grec, c'est plus précis, c'est consubstantialem patri. De la même nature que le Père. C'est-à-dire de la même substance. C'est uni à la même substance. Cum substantialem. Et c'est important d'avoir cette notion-là parce que la traduction latine est plus précise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est uni à la même divinité, la même substance. Ils partagent la même substance divine, comme substantialem. C'est plus précis que de même nature, ça veut dire ça, mais on pourrait le comprendre autrement. Ils ont la même nature, mais il en est une autre. Non, c'est la même nature. Voyez, Jésus-Christ partage la nature de Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Et vous voyez que dans les faits et gestes de Jésus, je disais ces paroles qui sautent au centre. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Si vous mourrez dans si vous ne croyez pas que je suis, qui fait référence à l'Exode, Dieu qui se révèle comme je suis, le Créateur, la source de l'existence, vous mourrez dans vos péchés. » Ça, vous pourrez aller voir cette citation qui est importante de la divinité de Jésus, qui dit ça en Jean chapitre 8, verset 24. « Si en effet vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Là, on voit une proclamation de la divinité de Jésus. Et toutes les paroles, les actes, sont des proclamations de la divinité qui se manifeste. Ainsi, seul Jésus peut pardonner les péchés. Et les Juifs l'avaient bien compris, puisqu'ils disaient « tu blasphèmes ». Tu te prends pour Dieu. Donc on voit que tout l'évangile nous parle que Jésus est Dieu. Voilà. Alors puissions-nous accueillir le Seigneur Jésus comme le centre de gravité de notre vie, comme celui qui est Dieu, qui est le Sauveur. Amen.